Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour le Beaujolais, bonjour le Val-de-Saône, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022. Il fait un peu gris, on va pas se mentir dans le Beaujolais. Météo France annonce des éclaircies cet après-midi et des températures autour de 18 degrés. Dans notre émission, on va parler alimentation avec Nadjet Guidoum et puis plantes sauvages avec Gabriel Caramana. Et enfin, on parlera économie avec le prof Patrick. Mais d'abord, on va parler musique. Samedi soir, samedi 15 octobre, à l'Auditorium de Villefranche, montera sur scène le pianiste Gustavo Velasco pour un récital en solo. Je crois que c'est la définition d'un récital, c'est que ça se passe en solo. Il est d'origine brésilienne, formé à l'école normale de musique de Paris, Alfred Cortot. Gustavo Velasco, c'est un interprète passionné par l'univers musical contemporain. Il en parle très bien, j'ai eu le plaisir de passer un moment avec lui par téléphone. On parle de son parcours et du programme de ce concert et de la musique en général. Avant d'écouter cet entretien, on commence en musique. Je vous propose d'écouter un morceau qui devrait jouer le 15 octobre à Villefranche. Ça s'appelle Prole des bébés. J'imagine qu'il y a un accent que je n'ai pas. De Heitor Villa-Lobos. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous. Morceau de Heitor Villa-Lobos qui s'appelait, j'ai demandé à Google Traduction comment on le disait, Prole di bebe. Grosso modo. Tout ça pour vous parler aujourd'hui du musicien Gustavo Velasco. J'ai eu le plaisir de passer un moment avec lui par téléphone. Il est en concert le 15 octobre à Villefranche.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on retrouve par téléphone notre invité du jour, c'est Gustavo Velasco. Bonjour.
Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation.
C'est un plaisir, merci de répondre à nos questions. Vous êtes, comment vous présentez ? Vous êtes pianiste, déjà c'est une information qui vous correspond bien.
Oui, tout à fait. Mon instrument, c'est le piano. Donc, généralement, je me présente comme musicien classique.
D'accord.
Finalement, en tant que pianiste, on est obligé quand même de réfléchir sur d'autres instruments, on est obligé de réfléchir au chant. Ouais. Là aussi, ça nous permet d'exécuter des meilleures lignes, on va dire, des meilleures lignes mélodiques plus belles, plus jolies, parce que tout, à la fin, ça sort du chant. Je ne chante pas en public,
ouais.
Mais c'est important de chercher dans ce sens-là aussi.
Musicien, c'est plus large et ça permet de mieux définir ce que vous faites, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, la composition, je l'ai travaillée, je l'ai étudiée, bon, c'est toujours à l'école normale. Au Brésil, j'avais commencé et c'est vrai que, alors, aujourd'hui, j'ai pris une petite pause en tant que compositeur pour me concentrer sur la carrière de concertiste. Ouais. Mais c'est vrai que dans le sens que la composition, elle m'a beaucoup aidé, surtout à découvrir mon répertoire de prédilection, qui était déjà le répertoire contemporain. Et ça vous ouvre tout un éventail de compréhension sur le répertoire que vous travaillez ou que vous allez travailler dans le futur.
D'accord. On va parler de votre parcours. Vous avez commencé le piano très jeune, je crois, vers l'âge de 6 ans. C'est par là que vous avez attaqué la musique, on va dire.
L'âge de 6 ans, en fait, j'ai toujours dit aux gens l'âge de 6 ans parce que il fallait que j'établisse un âge pour dire quel âge j'ai commencé la musique. Mais à vrai vous dire, le piano était toujours présent.
Ouais.
Donc je ne sais pas vraiment vous dire quand est-ce que j'ai commencé. J'ai la sensation d'avoir été né avec cette envie de faire un instrument de musique.
Ouais, vous avez toujours eu des souvenirs d'avoir toujours joué de la musique, en fait.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y avait toujours ma mère, elle en a fait du piano quand elle était plus jeune. Donc je me souviens de voir ses photos, des anciennes photos de sa jeunesse, elle devant un piano. L'instrument quand même, il me fascinait énormément.
Et vous avez du coup suivi des cours de piano, ça a fait partie de votre éducation tout au long de votre jeunesse?
Tout à fait, tout à fait. Alors pour les cours de piano, bien sûr, j'ai commencé au Brésil, d'où je viens. J'ai dû le commencer au conservatoire vers l'âge de 8-9 ans. Avant, je prenais quelques cours particuliers. Puis, je dirais que vers ma quinzaine, je me suis dit, oui, peut-être c'est ça ce que je veux faire de ma vie, peut-être c'est ça ce que je veux poursuivre comme métier.
Mmh. Et vous, cette formation, vous l'avez poussée pendant un moment, vous avez eu ce parcours au Brésil dont vous êtes originaire, et je crois que vers l'âge de 18 ans, c'est ça, vous avez poursuivi ce parcours en France.
Tout à fait, tout à fait. Je suis arrivé en France à 18 ans, à l'âge de 18 ans.
À l'École normale de musique de Paris, qu'est-ce que c'est que cette école ?
Alors, l'École normale, c'est une école créée par le pianiste Alfred Cortot.
Ouais.
Que je vous dise pas de bêtises, je pense que c'était dans les années 1910-1920. C'est une école très traditionnelle. À la base, c'était uniquement pour l'enseignement au piano. Maintenant, on trouve pas mal d'instruments. Donc, avec eux, il y a cette tradition du concertiste. Donc, c'est une école, malgré le nom École normale, ce n'est pas vraiment pour former des enseignants, je dirais.
Ça n'a rien de normal.
C'est pour former des concertistes.
Ouais. Et concertiste, je voulais vous demander justement qu'est-ce que c'est un concertiste comme,
Alors, cette question, vous savez, c'est une question qu'on peut réfléchir pendant toute sa vie.
Ah, c'est une grande question philosophique.
C'est une grande question philosophique, oui. Et je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Je ne pense même pas qu'il existe une bonne réponse de qu'est-ce que c'est un concertiste. À l'heure actuelle, moi... Si vous me permettez, je vais un peu reformuler cette question. Oui, tout à fait. Je me vois mon rôle en tant que concertiste aujourd'hui. C'est surtout, je suis au service du compositeur.
D'accord.
Je trouve que le compositeur, il est quand même c'est lui dans la hiérarchie. C'est lui qui est au-dessus des instrumentistes. Mais par contre, c'est une hiérarchie subordonnée. Sans l'instrumentiste, le compositeur, il ne peut pas vivre.
Sans l'interprète, la musique ne...
Sans l'interprète, non, du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, dans les... avec les avancements technologiques, oui, on peut créer des pièces électroniques. Ça, c'est une autre chose. Mais je parle de la musique du concert, la musique en live, la musique vivante du concert. Et je trouve ça, ça c'est mon rôle, premièrement, de transmettre ce que le compositeur il a voulu dire. Deuxièmement, je pense que mon rôle aussi en tant que concertiste, c'est de amener cette expérience pour les gens, de faire les gens découvrir l'univers de la musique, l'univers du compositeur, les sonorités, découvrir la beauté, en quelque sorte.
Et entre la partition qu'on vous donne, vous la mettez en vie, en musique, en jouant de votre instrument, y a un décalage qui est possible entre, suivant l'interprétation que vous lui donnez, y a des choses qui ne peuvent pas être écrites sur une partition. J'imagine qu'il y a énormément d'informations, mais on ne peut pas tout écrire.
Dans le sens interprétatif, c'est vrai que là, il y a tous ces débats philosophiques jusqu'à où on doit respecter l'idée du compositeur. Là, pour comprendre l'idée du compositeur, il faut comprendre le passé. Ou même aujourd'hui, dans la musique d'aujourd'hui, de la musique contemporaine, quand même, les compositeurs, ils sont très, très, très précis avec ce qu'ils veulent. C'est le niveau des détails d'une partition aujourd'hui, comparé à une celle de Bach, le niveau de détail est absurde aujourd'hui. Les compositeurs, ils se permettent parfois aussi même de marquer des indications d'expression.
C'est-à-dire, ils écrivent froncer les sourcils.
C'est-à-dire, attendez, moi j'ai une partition à côté de moi, trouvons quelque chose. Ça me rappelle aussi une sonate de Scriabine. Bon, on est en train de revenir quand même, pas vraiment contemporain Scriabine, mais il y a un moment où dans un moment de développement, je crois, parce qu'Abine il nous écrit avec un sentiment de plus en plus empoisonné.
D'accord. Il faut réussir à jouer ça avec un sentiment de plus en plus empoisonné.
Quand même, parce qu'Abine c'est quand même de la philosophie, donc il faut vraiment découvrir qu'est-ce que ça veut dire.
Ouais.
Mais par exemple sur une partition, j'ai bien quelques traits ici. Je suis en train de le voir. Et ces traits, en l'occurrence, le compositeur, il les écrit quand même bien clair. Donc, on va imaginer quelque chose plutôt sans pédale ou avec très, très peu de pédales.
D'accord.
Et si cette indication n'est pas marquée, peut-être on peut mettre un petit peu de pédale, si ce sera moins clair, si ce sera un petit peu plus veloté, je ne sais pas.
Vous nous donnez des conseils, là, vous êtes allé chercher une partition pour nous expliquer quelque chose. Vous êtes devenu formateur à la suite de votre parcours, vous avez ce côté pédagogique. Qui fait partie de vous aussi, c'est ça vous vient d'où ça? C'était une envie de transmettre après avoir appris pendant longtemps.
Alors le parcours pédagogique il commence même avant quand on est à l'école et plein des collègues et des camarades musiciens ont passé par la même situation. Nous avons besoin de survivre. Donc les cours particuliers, on commence à donner des cours particuliers, on commence à avoir un, puis deux élèves, puis quatre, puis six. Et ça nous permet quand même de l'établir financièrement dans la ville, surtout quand on est dans un pays étranger.
Ouais.
Donc j'ai commencé mon parcours d'enseignement comme ça. Au fur et à mesure, j'ai tombé amoureux aussi de l'art de enseigner. De savoir transmettre son savoir-faire. Et on apprend beaucoup avec les élèves. Ce que j'aime avec mes élèves, c'est des fois, on va imaginer, on a un problème à régler, un passage technique ou quelque chose que voilà, l'élève n'arrive pas à y arriver.
Ouais.
Il faut que vous trouviez une solution. Ok, vous proposez votre solution, l'élève, il peut y arriver. Oui, il ne peut pas y arriver avec votre solution. Parce que chaque corps est chaque corps. Donc, ce que marche pour vous, ça ne va pas forcément marcher pour lui. Donc, vous êtes obligé de repenser la technique sur votre instrument comme une autre personne. Donc, je trouve que déjà, dans ce sens-là, ça permet une compréhension plus large de l'instrument et des possibilités du corps aussi. La physiologie humaine, c'est quelque chose qui me fascine.
Vous serez en concert ce week-end, le samedi 15 octobre, à l'auditorium de Villefranche, pour un récital. Et comment ça va se passer, ce concert? Qu'est-ce qui est prévu?
Alors, j'ai prévu... ce sera un concert déjà de environ 1h20, 1h30, avec un entracte. J'ai choisi de présenter deux mondes, deux styles très écartés sur le plan historique, des œuvres baroques et des œuvres contemporaines. Mais ce sont des styles quand même qui se rapprochent dans le sens de la liberté des formes. Je pense que ça, c'est une caractéristique très grande de la musique baroque, et c'est une caractéristique de la musique contemporaine. Mon récital, je l'ai intitulé Les Ombres Errantes. Je commence cette intitulation, elle est surtout, ça concerne surtout la première partie du récital, auquel je commence avec Les Ombres Errantes de Couperin. Ouais. Par la suite, je ferai trois sonates de Scarlatti, j'aurai une œuvre de Messiaen, une œuvre pour piano et électronique de Jonathan Harvey. Et à l'issue de cette œuvre, je finirai avec une œuvre du compositeur français Gérard Pesson, compositeur contemporain, qui s'appelle « Ambre nous resterons », avec un deuxième titre que le dit « D'après les ombres errantes » de François Couperin.
D'accord.
J'ai imaginé pour cette première partie une sorte d'archer qui se forme. Donc on n'était pas en retour, mais ce retour, il est métamorphosé, comme si on traversait le miroir et du bois, ce qui était du bois autrefois, devient du métal.
J'ai entendu des extraits du morceau de Harvey, Tombeau de Messiaen.
Le Tombeau de Messiaen, oui, tout à fait.
J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez effrayant au niveau de l'ambiance. Enfin, ça s'appelle Tombeau du Messiaen. Alors, on s'imagine que c'est pas une musique qui va évoquer des choses très joyeuses, mais c'est le travail des dissonances, non, qui crée cette ambiance.
C'est un hommage, surtout. Je ne vois pas du tout comme une pièce funèbre. Ça. Même si ça s'appelle le Tombeau de Messiaen. Oui, c'est vrai que la musique contemporaine, souvent les gens, la première pensée qu'ils ont, c'est de dire mais ça fait peur, mais on dirait qu'on est dans un film d'horreur parce qu'on a beaucoup de dissonances. C'est vrai que c'est les harmonies proposées par la musique contemporaine, elles sont très angoissantes, mais si on écoute très attentivement, il y en a des moments très brillants. Et brillant dans le sens, pas brillant
lumineux,
bien sûr, brillant de génial, mais brillant dans la couleur, ça brille comme des étoiles dans le ciel. Et c'est très coloré comme musique, très coloré.
C'est-à-dire la musique contemporaine, c'est une musique qui s'affranchit peut-être des règles qui ont été établies de, je sais pas, après avoir joué une quinte, il faut jouer telle chose, sinon ce sera dissonant.
Ah oui, tout à fait, c'est la casse complète, c'est la table rase. Après la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut plus faire de la poésie après Auschwitz, mais après ce que disaient les autres compositeurs. Mais c'est vrai que la musique contemporaine, elle est en champ très large. Donc ça veut dire qu'on retrouve des œuvres plus avant-gardistes, on va les mettre entre guillemets, où on écoute justement ces dissonances, et des fois même, on n'utilise même pas le clavier, on va aller s'aventurer qui est à l'intérieur du piano, utiliser le piano dans sa totalité.
D'accord.
Ça veut dire que si tu tapes dans le bois du piano, ça produit du son, et le compositeur il décide de faire quelque chose avec ça. C'est du son. La musique, c'est de l'architecture, c'est de l'organisation du son. Mmh. Ça peut toujours marcher. Mais dans un autre côté, la musique contemporaine, elle est aussi, c'est par rapport à un retour aux vieilles traditions tonales. On peut trouver ça. Donc c'est avec un langage un peu plus sophistiqué, bien sûr. On voit très rarement des gens aujourd'hui écrire avec le sentiment pathétique du romantisme.
Ouais, ça n'existe plus trop.
Plus trop, je dirais, oui, c'est vrai. On le trouve dans les classes d'écriture, ça, des excellents travaux d'écriture, on en fait toujours, bien sûr. Mmh.
Le programme que vous avez concocté pour le 15 octobre se termine quand même par plutôt de la musique classique. Bach, Brahms, c'est des noms que je connais, donc ça veut dire que c'est la grande musique classique.
Oui, tout à fait. Ça se finit par ce mouvement, par ce monument que c'est la chaconne de Bach. À son époque, Brahms avait fait une transcription pour la main gauche sur le piano uniquement.
D'accord.
C'est une pièce uniquement pour la main gauche. Oui, j'ai choisi de finir sur le répertoire baroque justement pour clôturer. Moi, j'aime beaucoup cette. Je pense que j'ai une obsession par cette forme d'archer. Vous voyez, on commence sur quelque chose, on s'éloigne et on revient. Peut-être dans. Je sais pas. J'ai une obsession par ça. Donc, je commence sur du baroque.
Ouais.
J'ai m'aventure sur la musique contemporaine. En deuxième partie du programme, j'ai fait passer à la musique moderne, la musique de mon pays, Villa-Lobos, et un compositeur qui s'appelle Dino Krieger. Et à la fin, oui, je reviens. Je reviens aux origines, on va dire ça comme ça, aux origines du récital. Voilà.
Très bien. Bon, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et donc rendez-vous le 15 octobre à 19h à l'auditorium pour vous découvrir Gustavo Velasco.
Ensemble sur Calade.
Et on parlait d'un morceau qui s'appelait Tombeau de Messiaen. Alors c'est un morceau qui dure plus de 8 minutes, donc on va peut-être pas l'écouter en entier tout de suite, mais j'ai trouvé une adaptation pour guitare faite par le duo Assad. L'occasion de découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Bien à l'écoute de Calade, on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Le Tombeau de Messiaen, joué à deux guitares par le duo Assad. Pourquoi est-ce qu'on écoutait cette étrange composition? Eh bien parce que ça fait partie du programme de Gustavo Velasco pour son concert du samedi 15 octobre au piano, que vous pourrez aller écouter donc 19h à l'auditorium de Villefranche. On continue le programme de notre émission.
Oh, 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 mais vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Allez, on retrouve tout de suite Nadjet à l'antenne. Bonjour Nadjet.
Bonjour Mathieu.
Bon, vous allez bien?
Oui, très bien.
Bon, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler du goûter.
Le quatrième repas le plus important de la journée.
C'est ça. Mais en fait, le goûter, c'est une collation qui aide à recharger les batteries pour tenir justement jusqu'au dîner.
Ouais.
Et souvent, c'est une très bonne collation.
Oui, en général, tant qu'à faire, on prend des trucs qu'on aime bien.
Mais oui. Dans l'idéal, en fait, un goûter, alors on va parler du goûter pour enfants,
ouais.
Il doit être équilibré et donc il doit comporter donc un laitage, un féculent, un fruit. Et de l'eau, bien évidemment. Donc, on évite le jus de fruits, le soda.
Hein, ouais.
Voilà.
J'en ai pas fait souvent des goûters équilibrés quand j'y pense.
Ah bon? Ah bon? Parce que qu'est-ce que vous goûtiez?
Du chocolat, du pain.
Ah, c'est très bien.
Exclusivement. Ouais,
ah,
j'avais
oui,
pas le laitage, mais ouais, c'était vraiment. J'adorais ça.
Oui. De temps en temps, Mathieu, il est possible de concocter des goûters un peu plus gourmands, justement, ouais. À base de chocolat, par exemple. Et malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à donner à nos enfants des biscuits déjà achetés dans le commerce. Mais ces gâteaux, malheureusement, sont industriels et ils sont souvent trop gras ou trop sucrés.
Mmh. Ouais, mais c'est tellement plus pratique.
Oui. Ouais, alors c'est... ça, sans parler des additifs, du colorant, voilà, des petites choses
on
comme
va
ça.
Vite dans la facilité.
Et des conservateurs. Et donc, effectivement, c'est pas très bon pour la santé.
Ouais.
Mais je comprends, Mathieu, lorsque vous dites que c'est facile, effectivement. Mais vous savez que vous pouvez réaliser vous-même. Mmh. Pareil, la veille, les week-ends, par exemple. Et les goûters faits maison, c'est économique, c'est plus sain, c'est bien meilleur et ce n'est pas compliqué.
Et je crois que ça fait encore plus plaisir aux pitchounes d'avoir un goûter.
Ah mais tout à fait, et les enfants peuvent préparer ce goûter avec
les pains. C'est encore plus génial.
On peut réaliser par exemple des muffins à base de yaourt, cookies aux fruits secs, des brownies avec un peu moins de beurre par exemple, des madeleines avec du sucre roux, du miel. Vous voyez, plutôt que de mettre du sucre blanc, et puis on sucre un petit peu moins aussi.
Mmh.
Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous proposer une recette de muffins aux fruits, par exemple.
Très bien.
Très facile. Demandez à vos enfants de réaliser cette recette avec vous, c'est bien aussi. Et entre vous et moi, les adultes n'ont pas besoin de goûter, je voulais vous le dire aussi.
Oui, c'est ça. Normalement, on n'a plus besoin de goûter.
Voilà.
Après l'adolescence, de temps en temps.
Oui, bon, pour se faire plaisir, mais pas trop. Hein. Allez, je vous donne la recette. C'est une recette très très simple et c'est pour ça que je vous disais que ce serait bien que les enfants le fassent avec vous. Pour réaliser des muffins aux fruits, il vous faut 100 ml de lait, d'accord. Ou alors vous prenez un pot de yaourt si ça vous semble plus facile, d'accord.
Ok.
3 œufs.
Ouais.
120 g de beurre ou un pot d'huile si vous prenez si vous partez d'un pot de yaourt, 150 g de sucre ou deux pots de yaourt de sucre, d'accord.
Okay. Ah, mais c'est, on vide le pot de yaourt, après on l'utilise comme verre.
Et puis voilà, c'est
très
ça.
Bien, super.
200 g de farine ou 3 pots de yaourt. Un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et puis des fruits de saison. En ce moment, j'aime bien utiliser la myrtille. Donc pourquoi pas, on en a encore.
C'est une très bonne idée.
Ouais. Allez, on va commencer par casser les œufs et vous allez séparer les blancs des jaunes d'œufs. On dit qu'on clarifie nos œufs, d'accord.
Okay.
On met les blancs de côté et on met nos jaunes d'œufs, dans un saladier. Vous y ajoutez votre lait ou votre yaourt, d'accord. Le sucre vanillé, le beurre fondu. Vous mélangez bien, d'accord. On va enfin ajouter la farine. On incorpore doucement la farine. On mélange cette fois-ci avec un fouet pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux.
Okay.
D'accord. On met cette préparation de côté et on va monter nos blancs en neige.
Wow.
D'accord. On les monte. Alors, vous pouvez mettre un petit peu de sel. Moi, je n'en mets pas et mes blancs sont très fermes quand même.
Ouais, hein. Okay. Voilà.
Si on peut éviter le sel, c'est bien aussi.
C'est pas plus mal.
Donc, on monte nos blancs en neige et on va incorporer doucement, en soulevant la masse, donc nos blancs dans notre pâte. OK. On va répartir ensuite notre pâte dans des moules à muffins.
Ouais.
Vous pouvez les beurrer si vous voulez, mais si vous mettez des petites caissettes en papier, c'est très bien, ça évitera de rajouter du beurre.
Ouais. Puis c'est joli, je trouve.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, vous les remplissez qu'à moitié, puisqu'on y a ajouté la levure. On y a ajouté à la levure, donc le muffin va gonfler.
Ouais.
Et puis, à ce moment-là, lorsque vous avez versé votre pâte dans les moules, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter nos fruits. Donc, vous mettez les fruits que vous voulez, vous allez les disposer sur le dessus.
OK.
D'accord. On va enfourner tout ça, thermostat 6 à 180 degrés pendant 30 minutes et vos muffins sont prêts. Okay. Avec cette recette, avec ces quantités-là, vous pouvez faire 24 muffins. Donc vous voyez que c'est pas...
Oh, bah, ça fait du goûter pour une semaine, ça.
Mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal, c'est pour ça que je vous disais que c'était, ouais, c'était plus intéressant de réaliser ces muffins soi-même. Ou alors vous pouvez très bien faire un gâteau, classique, un gros gâteau.
Ouais. Hein. Super. Merci voilà. beaucoup, ben, je crois que ça va faire plaisir à pas mal de familles.
Oui.
Merci beaucoup Nadjet, à bientôt.
Merci Mathieu, à bientôt.
Ensemble sur Calax.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplepuisienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, aujourd'hui mon choix s'est porté sur un arbre, le hêtre, un arbre que l'on nomme aussi faillard, foyard, faillet ou fou. Il est classé dans la famille des fagacées, représenté aussi dans nos régions par les chênes ou par le châtaignier. Son nom scientifique est Fagus sylvatica, en grec phagos de phage, qui signifie manger. Ce mot désignait autrefois des chênes à glands comestibles. C'est un arbre qui atteint généralement 40 mètres de hauteur. Son tronc haut est droit et parfois légèrement sinueux. Il a un port en forme de dôme immense, avec de fortes branches et un feuillage dense. L'écorce du hêtre est lisse et gris argenté. La base du tronc est cannelée. Le hêtre peut se confondre avec le charme, qui a aussi une écorce lisse et grise, et des feuilles ressemblantes à celles du hêtre. La confusion est sans danger. Mais voici une petite phrase qui nous aide à les distinguer. Le charme d'Adam est d'être à poil. Car le bord des feuilles du charme est denté, alors que celles du hêtre sont entières et bordées de poils clairs. Le hêtre produit des fruits nommés faines, qui mûrissent à l'automne, donc présentes en ce moment. Ce sont des cupules ligneuses, marron, hérissées de poils souples. Elles s'ouvrent en trois ou quatre parties, sur des petits fruits marrons, lisses, à trois angles. À l'intérieur, vous trouverez une graine oléagineuse de la taille d'un pignon de pin. Notre arbre se plaît en forêt, où il trouve l'ombre et l'humidité qui lui est nécessaire pour croître. Il trouvera aussi sa place dans les haies. Il a besoin d'un sol drainé, calcaire ou acide. Vous pourrez aussi trouver le hêtre dans les parcs, comme le parc des Teix à Amplepuis. Les parties comestibles du hêtre sont les jeunes feuilles et les faines. Les feuilles tendres du printemps comptent parmi les meilleures jeunes pousses que nous offrent les arbres de nos régions. Elles sont très douces et agréables en bouche. Vous pouvez les grignoter en balade ou les intégrer à une salade printanière. Les faines peuvent se manger crues en petites quantités, car elles contiennent une toxine. Une consommation modérée ne présente aucun danger. Elles peuvent aussi être grillées, simplement à la poêle. La chaleur va éliminer une grande partie de cette toxine, la triméthylamine. Je vous conseille de goûter à ce petit délice de la nature, qui est aussi, comme les noisettes, une source appréciable de protéines et de glucides. En revanche, l'huile qu'on en extrait est exempte de toute toxicité, donc comestible et d'excellente qualité. Très appréciée autrefois, car elle ne rancit pas. On en préparait jusque dans les années 1930 dans l'est de la France. Il faut en moyenne 8 à 9 kilos de faine pour produire un litre d'huile. Pour comparaison, il en faut de 5 à 10 kilos environ pour des olives, selon les variétés. Du côté thérapeutique, le hêtre est utilisé aujourd'hui par l'industrie pharmaceutique qui extrait de son bois un goudron, la créozote, désinfectant puissant des poumons. Ce produit, obtenu par distillation, entre dans la composition de nombreux sirops. Pour finir, un peu de magie et de symbolique. Le hêtre est parfois appelé « arbre aux fées » ou « arbre aux dames ». De nombreux lieux-dits portent d'ailleurs le nom de « faille » ou « t ». Le hêtre symboliserait la confiance, la patience et la douceur. Une forte vitalité, empreinte cependant de raffinement, de joie et de féminité. Voilà de quoi méditer. Sur ce, je vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons. Et Flore, pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et oui, après avoir parlé plantes, on va parler économie aujourd'hui avec le prof Patrick. Bonjour, prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi avez-vous prévu de nous parler?
On ne parle pas d'économie en fait.
Ah mince, je me suis raté.
J'avais décidé de ne pas parler d'actualité, j'avais décidé de parler d'un philosophe des sciences, Bruno Latour. Et j'avais écrit ma chronique dimanche matin pour inciter les gens à lire Bruno Latour. Et j'ai eu, le hasard fait tristement les choses, j'ai eu la triste nouvelle d'apprendre que dimanche soir, il est décédé d'un cancer. Donc c'est un hommage à Bruno Latour, en quelque sorte, que je vais faire dans cette chronique. C'est un philosophe des sciences, Bruno Latour, qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis. Je l'ai connu personnellement à la fin des années 80 en lisant une autre philosophe des sciences, Isabelle Stengers, qui est une sorte de sœur d'âme de Bruno Latour. Bruno Latour, c'est quelqu'un qui énerve beaucoup de monde. Il énerve certains scientifiques, il énerve les gauchistes radicaux, Jean-Frédéric Lordon, il énerve certains sociologues, Jean-Pierre Bourdieu. Pour le reste, il est surtout ignoré du grand public. Voilà. Il a commencé déjà par énerver les scientifiques à partir des années 70 quand il a publié divers articles et livres sur la pratique concrète des scientifiques. Il a séjourné ainsi dans un grand laboratoire scientifique en Californie et il a observé le travail quotidien des scientifiques comme un éthologue observerait le comportement des bonobos. Ça a donné un livre qui s'appelle « La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques », sorti en 1979 et écrit avec Steve Woolgar, où il nous fait comprendre que la science ne consiste pas à faire des, entre guillemets, « découvertes scientifiques », sorte de moment miraculeux, un peu divin, vision naïve de la science, qui flatte quand même l'ego des scientifiques. Non, non, la science, c'est la construction lente et minutieuse de fiction et le travail pour faire accepter cette fiction par ses pairs à travers un processus critique rigoureux voire impitoyable. Attention, certains scientifiques ont hurlé au relativisme, c'est un scandale, etc. Bon, c'est la preuve qu'ils n'avaient pas compris ou pas lu Bruno Latour, parce que ça n'a rien à voir avec du relativisme, c'est de la sociologie en fait. Certains ont donc caricaturé Bruno Latour. Ainsi, en 1997 est sorti un livre qui s'appelle Impostures intellectuelles, écrit par deux physiciens, Alain Sokal et Jean Bricmont, dans laquelle ils se moquent de ce qu'ils appellent la pensée postmoderne. Donc ils se moquent de Jacques Lacan, Julia Kristeva, Lucie Rigaret, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari et Paul Virilio. Seul problème, c'est que Bruno Latour n'a rien à foutre dans cette liste-là, il n'est pas postmoderne et son travail n'a rien à voir. Donc c'était de la mauvaise foi éhontée. Bref, certains scientifiques détestent qu'on conteste leur prétention à l'hégémonie en matière de vérité. Mais c'est pas grave, hein, les chiens aboient, Bruno Latour passe. Et il passe à quoi? Eh bien, il passe au livre qu'il sort en 91, « Nous n'avons jamais été modernes ». Être moderne, c'est quoi? C'est fonder sa vision du monde sur la séparation nature-culture, la stricte séparation. Ce qui est aussi un appel à exploiter la nature au maximum, c'est ce qu'a fait l'Europe à la Renaissance, exploitation maximum de la nature. Ce que Bruno Latour explique dans son livre, c'est qu'en fait, nous, Européens, on n'a jamais vraiment respecté cette séparation nature-culture. Parce qu'on vit en symbiose permanente avec ce qu'il appelle des hybrides. Les hybrides, c'est par exemple la pollution des rivières, les embryons congelés, le virus du sida, le trou dans la couche d'ozone, les robots connectés, les objets connectés, etc., etc. Des innovations, ou leurs conséquences, qui entremêlent le vivant et l'humain et qui nous transforment nous-mêmes. Bon, je l'avoue, c'est pas un livre forcément facile à lire, d'accord.
Ouais, ça a l'air quand même
propre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce cheminement intellectuel va peu à peu amener Bruno Latour vers la grande question de notre ère, la question écologique. Et c'est ainsi qu'en 1999, il sort un ouvrage qui s'appelle « Politique de la nature, comment faire entrer les sciences en démocratie ». Il va y formuler une célèbre proposition, la proposition du Parlement des choses, ou Parlement des terrestres. Il s'agit de créer, il propose que l'on crée une instance démocratique où non-humains seraient représentés et auraient droit à la parole, droit à défendre leur existence et leurs intérêts propres face au rouleau compresseur de la machine capitaliste. Il s'agit de trouver le moyen d'établir des relations pacifiées entre les êtres qui partagent un même monde, humains et non-humains. Je vais sauter une quinzaine d'années. Bruno Latour est un scientifique très éclectique, il s'est intéressé à plein de choses, mais en 2015, il sort un ouvrage qui s'appelle « Face à Gaïa », qui va continuer le fil de sa réflexion. Gaïa, c'est un terme qui a été popularisé par un scientifique qui s'appelait James Lovelock, qui est décédé il y a quelques années, dans un livre qu'il avait écrit qui s'appelait « L'hypothèse Gaïa ». Ce terme désigne la Terre comme un organisme en permanente évolution par ses interactions avec les êtres vivants qui la peuplent. Bruno Latour, lui, va reprendre la logique de ses travaux précédents que je viens de présenter, et notamment la séparation nature-culture de la pensée moderne, qui est, explique-t-il, à l'origine du désastre écologique en cours. c'est cette séparation nature-culture, selon Bruno Latour, qui est à l'origine de ce désastre. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là, à la Renaissance, que l'on a remplacé le divin par la science, que l'on a expliqué, que l'on a disséqué le monde par la méthode scientifique, et que notre compréhension du monde s'est alors réduite à des interactions chimiques. On a fait de la nature une chose inerte. D'accord ? Bruno Latour nous demande donc, dans Face à Gaïa, de changer de regard, d'accepter le caractère vivant et non figé de la nature. Gaïa, pour lui, est un système fragile et complexe par lequel les phénomènes vivants modifient la Terre. Il s'en sert comme une métaphore d'une nature animée dont nous faisons partie intégralement, mais qui risque de nous détruire si nous persistons à nier notre impact négatif sur le vivant. Il relance alors sa proposition du Parlement des terrestres que je viens de présenter, cette gigantesque assemblée qui réunirait des représentants des êtres humains, mais aussi des représentants des fleuves, des continents, des montagnes, des rivières, des océans, des forêts, des espèces animales, etc. etc. Il nous appelle à repenser la société en tenant compte des intérêts humains, des intérêts animaux, des intérêts minéraux, des intérêts aquatiques. Tout ça en écrivant une sorte de gigantesque contrat de copropriété. En 2017, 2 ans après Face à Gaïa, Bruno Latour publie « Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ?» Face à un monde globalisé, dérégulé, inégalitaire et en pleine mutation climatique, Bruno Latour pose la question du monde à inventer pour répondre à ces défis. Il trouve, et d'ailleurs c'est peut-être une raison pour laquelle la gauche radicale ne l'aime pas trop, il trouve que l'Europe est un espace assez pertinent pour entamer cette révolution. Il propose une méthode très concrète. La méthode, c'est... Commençons par décrire notre territoire, commençons par faire la liste totale, exhaustive de qui nous dépendons et de quoi nous dépendons pour vivre. Région par région, localité par localité. C'est le moyen pour ensuite travailler dessus concrètement. Ça, c'est rien d'autre que le modèle des cahiers de doléances de la Révolution française, en fait.
C'est vrai.
Il va chercher ses sources assez loin. En 2021, donc, il publie la suite de « Où atterrir ?», qui va s'appeler « Où suis-je ?». Et bon, alors bien sûr, il va intégrer les réflexions sur le confinement qui est passé par là, d'accord. Mais la question principale, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on prend conscience que notre survie dépend d'une zone minuscule, notre atmosphère en quelque sorte, et puis un peu la Terre qui nous supporte, et que nous sommes en train d'endommager gravement cette zone, alors que nous n'avons rien d'autre pour vivre. On n'a pas d'alternative. On comprend aussi que l'idée que chacun vit dans un pays et dépend des ressources de ce pays est une illusion totale. En fait, en bons êtres vivants que nous sommes, nous dépendons tous les autres au-delà des frontières de nos pays. Personne ne peut s'enfermer derrière ces frontières. Que faire alors ? Bruno Latour espère l'avènement d'une classe écologique, une classe sociale écologique. Une nouvelle classe sociale qui montrerait à la classe bourgeoise ses limites, tout comme la classe bourgeoise avait montré à l'aristocratie ses limites au XIXe siècle. Aujourd'hui, la classe bourgeoise n'est plus rationnelle. Pour ceux qui voudraient avoir une illustration de cette affirmation, allez écouter toutes les interviews d'Aurélien Barreau sur YouTube. Il démontre de façon éblouissante le caractère totalement irrationnel de la pensée des classes dominantes actuelles, vis-à-vis de l'enjeu écologique. Cette classe écologique, donc, pour Bruno Latour, doit faire à son tour cet immense travail de redéfinition intellectuelle qu'avant eux ont fait le libéralisme et le socialisme. Sauf que la question n'est plus de produire et de partager des richesses, la question est de se focaliser sur tout ce qui englobe, tout ce qui entoure, tout ce qui permet la production et le partage de richesses. Et pour ça, Bruno Latour met en avant l'importance du travail collectif. Alors, son Parlement des choses, d'accord, mais aussi des expositions, des pièces de théâtre, l'aspect culturel. Tous ces outils permettent de solliciter beaucoup de personnes qui ont des vraies connaissances et permettent, par cette mise en commun, d'enrichir la réflexion. Il faut, nous dit Bruno Latour, créer des dispositifs, des collectifs, des écoles, un écosystème. L'ampleur de l'enjeu demande la collaboration de toutes les disciplines. Alors, je vais m'arrêter là, Mathieu. Mais je vais conclure en partant des travaux assez obscurs d'un philosophe, pas très connu en France, et pourtant français. Nous avons découvert par son cheminement de toute une vie, une analyse qui nous aide à comprendre notre monde, ses enjeux écologiques, et qui nous offre des pistes d'action concrètes. Alors bien sûr, son œuvre suscite le débat, certains ont pointé des fragilités dans ses analyses, notamment la façon insuffisante dont il étudie, ou du moins n'utilise pas assez les rapports de force dans notre société, ok. Pour autant, je conseille à tous ceux qui seraient intéressés par ces questions de lire en priorité les 3 derniers ouvrages de Bruno Latour, Face à Gaïa, Où atterrir et Où suis-je, et de mettre en pratique, chacun de son côté, les conseils de Bruno Latour. L'enjeu demande la collaboration de tous.
C'est des bouquins épais.
Alors, Face à Gaïa, un petit peu, mais c'est une sorte d'extrait de conférence, donc c'est lisible. Et Où atterrir et où suis-je sont des livres très lisibles. Il les a écrits à destination du grand public. D'accord. Il a vraiment sciemment décidé de simplifier son écriture pour toucher le plus grand nombre.
Okay.
Donc c'est tout à fait lisible.
Très bien.
Je mettrai tous les liens dans le podcast, bien évidemment.
Parfait. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À très bientôt. Ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, ça va être la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci de l'avoir suivi. Vous la retrouverez bien sûr en podcast sur radio-calade.fr. Rediffusion demain matin à 10h. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. On se quitte en musique à l'italienne. Voici Dupla avec un morceau qui s'appelle La vida sta rara.
La vida sta rara. Te voy a explicar. Mi rutina diaria, no logro encontrar. La vida está rara, no me logro organizar. Y con cada semana, todo va a empeorar.
La vida está rara, la vida está rara.